aucun doute sur le fait que nous devons écrire de plus en plus de petits livres dans lesquels nous racontons ce qui nous arrive, ce que nous voyons et ce que cela nous fait. Il n'y a aucun doute sur le fait que nous devons écrire de plus en plus de petits livres dans lesquels nous racontons ce qui nous arrive, ce que nous voyons et ce que cela nous fait.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Il se passe quelque chose, une heure de poésie contemporaine sur Radio Campus Paris, et pour cette première de la saison 25-26, j'accueille Gabriel Gauthier, poète, romancier et musicien né en 92 à côté de Rouen et diplômé des Beaux-Arts de Paris.
Bonjour.
Salut Gabriel, merci d'être là.
Merci.
Alors Gabriel, tu as donc 33 ans et tu as déjà publié 4 livres je crois.
Oui.
De livres dans des maisons d'édition un petit peu niche,
oui.
Mais de grande qualité. Certains, je n'ai pas réussi à me les procurer. Simurgue et Simorgue au Théâtre Typographique en 2016, Speech chez Vie Parallèle, puis un roman Space aux éditions Corti en 2024,
ouais.
Et tout récemment, La Vallée du Test chez Corti également en 2025. Des ouvrages qui sont imbriqués entre eux, avec des thèmes, des lieux, des personnages qui reviennent. On est dans une cosmogonie un peu étrange, un peu décalée, bancale. C'est un peu inquiétant, drôle, léger à la fois. On avance à tâtons dans des lieux, on erre dans des petits instantanés qui sont marqués par des voyages, des questions, presque des théories d'ailleurs. Et c'est une poétique qui interroge la difficile question du rapport au monde, mais qui se pose aussi beaucoup la question de l'écriture, de l'art du roman, de la valeur du livre et de sa réalité. C'est donc assez intéressant que tu sois aussi publié dans la maison de Grac. Je pense qu'il y a une filiation, même si tu la revendiques pas nécessairement. Aussi des auteurs comme Borges, même si tu me l'as dit, toi, tu te sens aussi proche d'une littérature d'aventure, les romans de Stevenson, le Peter Pan de J.M. Barrie, qui apparaît d'ailleurs dans La Vallée du Test. Gabriel, du coup, j'ai fait un petit portrait de toi, un peu quatrième de couverture. Mais toi, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, où tu as grandi ? J'ai dit que c'était en Normandie, à côté de Rouen, mais vu que les espaces, les lieux ont l'air d'avoir une grande place dans ton écriture, est-ce que tu peux nous en dire plus sur d'où tu viens ?
Mais j'ai déjà une phrase par rapport au fait que tu disais à l'instant que je lisais des romans d'aventure. Et peut-être ce que je t'avais pas précisé, c'est que je les lis depuis très peu de temps. Comme si je récupérais quelque chose, encore une fois, qui ne s'était pas passé pendant mon enfance et mon adolescence. Je n'ai jamais lu Stevenson dans mon enfance. C'est que maintenant que je le lis et où j'ai l'impression que ça résout comme une pièce de puzzle où finalement ça revient au même que de l'avoir lu enfant. C'est juste que ça a été légèrement décalé. Et par rapport à Peter Pan et au lieu d'où je viens, je pense à une phrase de Barry dans un livre sur sa mère où il se rend compte que peut-être on est enfin romancier lorsqu'on se met à écrire sur l'endroit d'où l'on vient. Et je crois qu'en ce moment, c'est la première fois que je commence à écrire à partir de là d'où je viens. Et en effet, je viens de Haute-Normandie et j'ai vécu à une trentaine de kilomètres de Rouen jusqu'à 18 ans. Mais donc, j'ai fait ma scolarité dans les petites écoles de campagne avant d'aller au collège et au lycée à Rouen, où là, j'étais en internat et en famille d'accueil et où je rentrais chez moi le week-end.
Et du coup, si tu n'as pas lu cette littérature d'aventure enfant et adolescent, tu lisais quoi ?
J'en parlais avec une amie la dernière fois, et les trois noms qui me venaient, c'était, je lisais La Comtesse de Ségur.
C'est aussi de l'aventure.
Oui, c'est vrai, c'est de l'aventure, mais c'est pas la même. C'est dans des espèces de châteaux, de riches, dans des grands manoirs, pendant des vacances d'été. Je lisais, ça c'est pas du tout de ma génération, mais les romans de la Bibliothèque verte. C'est pas les mêmes aventures
C'est
en fait. C'est de l'aventure, mais c'est pas les mêmes aventures que ces Anglais, quoi. Et je lisais les policiers d'Agatha Christie, que j'adorais. Oui, en fait, je lisais aussi de l'aventure, mais je pense que je réfléchis à ces affaires de marins et de pirates, et ça, je n'en lisais pas. En revanche, et aujourd'hui, c'est ce qui me touche le plus.
Et du coup, en revanche, tu lisais plutôt des histoires de jeunes filles pas sages.
Oui, en fait, c'est exactement ça, ouais. Ouais. Je me sentais extrêmement proche de Sophie, surtout dans. Là, tout à coup, j'ai plus trop de souvenirs d'où elle vient, mais il me semble que. En fait, je ne sais plus par qui elle est élevée ou pour quelle raison elle a perdu ses parents ou alors ils ne sont pas là et elle se fait martyriser. Mais je m'identifie pas à ça, mais je me suis jamais posé la question de, tiens, pourquoi Sophie était un personnage dont une petite fille dont je me sentais extrêmement proche enfant. C'était ma grand-mère qui m'avait dit de lire Les Malheurs de Sophie et je crois qu'au-delà des Malheurs de Sophie, parce qu'il y a plusieurs tomes, celui que j'aimais le plus, c'était Les Petites Filles Modèles.
Un très beau titre
Ouais,
aussi.
un très très beau titre.
Et quand est-ce que tu t'es mise à écrire?
Alors, je crois que assez jeune, en fait, j'ai un souvenir très très précis du moment où j'ai commencé à écrire, puisque dernièrement, j'ai trié tout ce que j'avais écrit au lycée. Et j'en ai jeté 90% parce que sinon, je me suis dit, non, il y a trop un rapport de moitié fascination, moitié mignonnerie. Et je me suis dit, bon, c'est bon, je peux jeter ça. Mais j'ai gardé le premier texte où je me suis dit, c'est un texte de quelqu'un qui écrit, où je me suis décidé en rentrant un vendredi soir chez ma mère, donc chez moi à la campagne, à écrire ce texte après la sortie des cours et de l'internat. Où tu me rappelles même quasiment de la première phrase, où je me maudissais un peu, je regrettais de une fois encore ne pas avoir réussi à dire au revoir au groupe des filles et garçons populaires de ma classe. Et ça, je l'ai gardé. Et je crois que j'ai montré cette page à ma mère le lendemain en lui demandant. Presque la preuve que est-ce que ça voulait dire que j'écrirais. Et ensuite, très vite, j'ai arrêté la narration après ce premier texte sur mes regrets de ne pas avoir dit au revoir au reste de ma classe. Et je me suis mis à écrire des poèmes parce que c'est directement là où je me sentais le plus à l'aise. Et surtout, parce que j'avais l'impression, c'est tout simple, c'est très matériel, j'avais juste l'impression de pouvoir ouvrir un livre n'importe où, de pouvoir relire si je voulais, de le fermer si je voulais, et qu'il n'y avait pas d'ordre. Je crois que c'était ça déjà qui était là, ce truc de il n'y a pas d'ordre. Ça me va comme un. Je faisais de la magie aussi enfant, comme un jeu de cartes mélangé, comme au début d'un tour, on dit choisissez une carte, les cartes sont toutes différentes. La poésie avait quelque chose de. Toutes les cartes sont différentes. Le tour peut commencer. J'avais l'habitude.
d'attendre, d'attendre Tom.
Mais du coup, c'était une décision, c'était un choix pour toi, tu t'es décidé à écrire.
Ouais, ça serait intéressant de voir la limite entre décision et spontanéité, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, ce que j'ai fait dans l'écriture a été le résultat d'une décision bien en amont, une espèce de promesse faite à moi, puis aux autres pour presque m'imposer de le faire, parce qu'une fois qu'on dit aux autres qu'on va le faire, alors on est encore plus entouré de on a diffusé cette promesse, quoi. Et ouais, une décision à laquelle je devais me tenir. Il y a toujours eu une espèce de chose à... C'était réglé dans le temps, il fallait y retourner à chaque fois. De même, quand je me suis mis à écrire mon journal, j'ai pris la décision de le faire, sinon... Naturellement, il y a un penchant où, pendant des années, je me serais juste arrêté de le faire. Ouais. Quelque chose de pas totalement spontané.
Et tu écris toujours comme ça, du coup, aujourd'hui, tu parles de ton journal, il y a quelle place dans ton processus
d'écriture ? Tellement devenu central. Mais je m'en suis rendu compte assez tard. C'est-à-dire qu'aussi, toutes les premières années, je ne l'ai jamais relu. Et puis, c'était un test sans arrêt de... C'est pouvoir chaque jour... Les premières pages que j'ai écrites de mon journal, il y a une dizaine d'années, j'ai relu la page et je me suis pas vraiment supporté. Je me suis reconnu. Mais ce n'est pas une image... qui est la plus agréable, parce qu'on voit tout de suite toutes ces failles, et dans l'écriture, et dans le portrait. La première page, c'est comme un... Je pense, quoi qu'on raconte, c'est comme une espèce d'autoportrait. Et je pense que là où j'essayais de faire bien, de faire des bonnes phrases, je voyais à quel point ça se voyait, que j'essayais de bien faire. Et le lendemain...
Ce qui veut dire que tu écrivais déjà ton journal en sachant que tu allais être lu? Ou alors c'était pour toi que tu voulais bien faire ?
C'était pour moi. C'était pour moi. C'était d'abord un regard de me dire, je vais vérifier dans le journal si hors du journal je peux bien écrire. Une espèce de transaction comme ça. Sauf que le lendemain, quand je me suis dit, c'est le jour 2, il faut continuer, je me suis dit, c'est pas grave, je me suis pas supporté hier, il faut juste s'habituer à cette chose un peu insupportable. Et on verra. Et je crois qu'aujourd'hui, à un moment, je présentais le journal comme un objet génial, parce qu'en fait, on passe son temps à mépriser un peu son écriture. Et aujourd'hui, c'est même plus ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'équivalence entre ce qui est bon et pas bon. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le journal redevient central et devient presque, paradoxalement, le lieu où je trouve que c'est meilleur et au-dessus de tout. Parce qu'il y a quelque chose d'indiscernable entre le bon et moins bon. Tout est côte à côte, tout est tressé, tout s'embrasse, et c'est pas grave, quoi. C'est pas grave que ça casse, c'est pas grave que ce soit trop gros à un moment, que ce soit trop précieux, que ce soit résumé à un autre. Toutes ces choses coexistent. Et la page est toujours là, il y a quelque chose de rassurant, de... Ouais, donc aujourd'hui, j'aime énormément ce lieu et tout part de ce lieu à cause de ce mélange. Mais ça me refait penser au jeu de cartes, en fait. À cause de ce mélange où un deux de trèfle est aussi bien qu'un roi de cœur.
Et comment on glisse du journal au roman ?
Alors, c'est un lieu très ambigu parce que je pense que pour glisser par exemple à Space, j'ai pris des années des notes dans ce journal en me promettant que j'allais l'écrire. Il y a même des entrées, c'est quand j'aurai commencé Space, il se passera ça, il se passera ça, il se passera ça. Une espèce de liste, de fait encore une fois, de promesses. À un tel point qu'à un moment, je me suis demandé si le journal ne devenait pas une excuse pour ne pas en sortir et ne jamais me mettre au roman, puisque quand je me suis mis au roman, j'ai stoppé le journal, parce qu'on ne peut pas tenir les deux. Mais je crois que ça m'y a préparé. J'ai pu réutiliser des passages du journal qui sont tombés dans Space, mais aussi, là, ce que j'essaie de faire en ce moment, depuis 2 ans, je prends des notes pour un nouveau projet de roman. Comme c'est plus conscient que Space, parce que la question du premier roman, comme je viens de la poésie, j'avais tellement peur de ne pas réussir à finir un roman que la question qui me tenait pendant toute la première moitié, c'est « vais-je arriver à tomber dans la seconde moitié ?» C'est-à-dire à un moment où ce sera trop tard, il y aura un moment où je l'aurai terminé. Maintenant, je me suis débarrassé de cette question et c'est assez intéressant, je trouve. C'est peut-être là où c'est agréable d'être publié. Je pense que le gain de confiance, ce qu'on gagne, c'est tout simplement l'idée que, qu'il soit bon ou mauvais, il y aura un autre livre. Et ça, c'est une pensée rassurante qui fait que je peux aller à d'autres endroits. Là, après 2 ans de notes dans le journal, je me suis dit que je n'avais plus besoin de les regarder. J'ai essayé d'écrire sans les regarder, sans les utiliser, et je les relirai après. Donc,
ce qui est presque paradoxal, parce qu'on a l'impression, on entend beaucoup que c'est le deuxième roman qui est très difficile, puisque c'est celui qui est attendu, alors que le premier roman, il émerge. Bon, il est attendu par les amis et par... Et par ceux qui nous connaissent, mais en fait, il y a une pression folle sur le deuxième roman.
Ouais, que je ressens pas à l'endroit du deuxième. Je ressens pas une pression de l'extérieur. C'est étrange, je me suis dit aussi il y a quelques jours, j'avais tellement la pression, je pense que j'ai été tellement... je me suis tellement donné des ordres dans l'écriture, de pression déjà en amont, qu'elle a toujours été là. Et justement... J'ai l'impression d'avoir un tout petit peu plus de liberté par rapport à cette pression aujourd'hui. J'en ai eu assez un moment de la ressentir, et là... Mais c'est encore grâce au journal, cette question du bon et de l'égalité, l'équivalence entre le bon et le pas bon, c'est que il y aura un autre livre, c'est bon. Je suis assuré qu'il y en aura un autre. Et il y a quelque chose où ce n'est plus... J'ai plus de pression à cet endroit, et donc il me semble que là, quand j'écris un deuxième roman, je vais encore plus dans toutes les directions, parce que je pense plus du tout même à la finalité, je sais qu'elle arrivera.
Quand tu parles de cette pression du bien, c'est quoi ? C'est quoi ? Quand tu lis Space, il y a des choses que tu trouves plus bonnes ? Je ne sais pas si tu le relis d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont devenues caduques ou au contraire, tu n'as gardé que ce qui te semblait bon ?
Il y a des maladresses, je le relis pour des lectures, mais je continue à le corriger, je barre des moments, j'en réécris d'autres, c'est un petit mot qui change, je peux trouver quelques lourdeurs. Et avant, l'impression du livre, ça me faisait un peu flipper, ça. Et maintenant, il y a quelque chose que je trouve assez génial là-dedans, où c'est pareil, je me dis, c'est pas grave, c'est toujours grâce au journal, ça, c'est, c'est, je, rien n'est plus aimable qu'un livre où on voit les coutures aussi. De toute manière, c'était un ami qui préparait sa thèse qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, mais t'inquiète pas, de toute manière, on les voit toujours, les coutures, les scratchs. C'est comme, je sais pas, quand j'étais aux Beaux-Arts, j'avais un prof... prof de sculpture, je sais pas pourquoi je m'étais retrouvé à devoir acheter un manteau avec lui. Il voulait se trouver un manteau, il avait pas le temps, donc on était sortis dans le 6e arrondissement. Il me dit, bah, j'ai pas le temps, je dois prendre mon train, mais après je dois aussi acheter un manteau d'hiver. Viens, on fait le rendez-vous en marchant et en allant acheter un manteau. Il m'avait dit, t'as vu, Gabriel, comme on voit les coutures au niveau des épaules, une fois que tu les regardes, tu vois que ça. Et maintenant, dès que je vois un manteau ou un t-shirt, je me dis, c'est vrai, c'est dingue. C'est cette pièce, ce t-shirt, ce manteau, il n'est pas fait d'un seul rouleau d'étoffe, enfin d'un seul rouleau, mais il a été coupé. Et quand on regarde les coutures, on voit que ça. Et ben dans un livre, c'est pareil. En fait, que j'ai essayé de me détacher de cette idée de, il faut tout lisser. On voit tout, on voit les coupes, et c'est grossier. Et c'est ça qui est génial. Et à partir du moment où on se dit, c'est pas si grave. Et le roman, c'est cette chance aussi. C'est la chance de pouvoir terminer un chapitre, tourner la page et de dire le lendemain matin. C'est énorme, c'est gros comme coup. C'est vraiment découpé du jour avec une énorme paire de ciseaux, quoi.
En résumé, à cause d'un mouvement, un bleu recouvre ta main. Un goût familier t'attrape toutes les nuits à 3h du matin. Les pièces forment l'ensemble des possibilités.
D'ailleurs, en tout cas dans Space et aussi dans la Vallée du Test, il y a... c'est très découpé.
Ouais.
Des petits. C'est 2-3 pages, souvent pas plus. Et dans tes poèmes, il y a aussi cette fin tronquée où.
Bah.
Est-ce que c'est une notion de fin ? Est-ce que c'est la fin qui te pose problème ou que tu évacues ?
Alors ça me fait penser à deux choses, c'est-à-dire si j'avais peur de quelque chose, là on parlait de lourdeur dans mon écriture, ça serait la peur d'être trop lourd, d'être trop précieux. J'ai l'impression de venir d'images, c'est maintenant que je me rends compte, hein, dans mon enfance ou mon adolescence, qui sont grosses. Quand j'étais enfant, je croyais très fort en Dieu, dans les forces du bien, dans les forces du mal. Ça parlait de lumière, ça parlait de couronne d'étoiles, ça parlait de robe de tristesse. Ce langage, c'est très chargé symboliquement, ça a été le mien. Et à un moment, je me suis rendu compte, bon, bah, c'est le mien, qu'est-ce que j'en fais ? On ne peut pas quitter son langage comme ça, c'est juste comment je le manipule, comment je le réoriente, comment je le réagence. Et donc j'avais peur, là ce serait pour parler des poèmes de la vallée du Test, il y a ce qui m'a mené à cette coupe, c'est-à-dire j'avais peur d'être... J'aime écrire des poèmes, j'aime en lire, et quand je lis les poèmes des autres ou les miens, je trouve, là je parle de poèmes contemporains, je trouve qu'un des gros défauts, c'est les fins. Les fins, c'est... On peut voir un superbe poème, et la fin, ça devient hyper lourd parce qu'on veut tout mettre. Et moi, je sais que j'aurais une grosse tendance à vouloir tout charger à la fin, dire regardez comme j'ai bien réussi à fermer la forme, regardez comme j'ai tout compris à mon propre poème. Je me suis dit, il faut pas ça, il faut oublier ça, comment je fais ? Parce que je vais pas pouvoir aller contre ma lourdeur, contre mon poids, contre... qui est pas qu'une chose négative, c'est bon, bah, mes mots sont chargés, la barque est chargée, il y a de la gravité dans tous les sens du terme. Comment je fais pour m'arranger avec cette gravité ? Et les poèmes de la vallée du Test, ils sont passés par plein de versifications différentes que je trouvais à chaque fois trop précieuses. Et quand je remettais dans un bloc de prose où mes vers devenaient des lignes, je me disais, bah là, du coup, c'est à nouveau plat, c'est juste un mur, ça ne me convient pas non plus. Je me suis dit, il faut que je trouve un principe de coupe presque arbitraire où j'ai plus à penser au rythme de mon vers, que ce soit pas une question de syllabes, parce que sinon je vais retomber à nouveau dans une espèce de chanson qui sera la même. Faut pas que ce soit une espèce de chose, de mécanisme ultra précis où on se dit, putain, quel coup de génie, regardez comme c'est précis à l'intérieur. Et je regardais, c'est marrant, ça parle aussi du mot journal, parce que j'aime bien, quand on lit les journaux, la colonne. La colonne du journal. Je me dis, c'est drôle quand on lit la ligne sur ces colonnes. D'ailleurs, on dit écrire à la ligne dans le journalisme. En fait, c'est des lignes de 3, 4, 5 mots. Et j'aimais bien ces petites unités. Et parfois, si on prend une ligne au milieu d'un article, on peut avoir une unité un peu magique avec un mot très matériel, un adjectif. Mmh. Ça ne se finit pas parce que c'est trop petit. Donc, on ne peut pas avoir une phrase complète. Et là, j'avais déjà fait des vers de 8 mots pour Speed. J'en ai fait deux fois moins. C'est que des vers de 4 mots. Tout est coupé en 4 mots. Bam, 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 bam. Et à la fin, il me restait un mot, deux mots, trois mots quand ce n'est pas des multiples de 4. Et là, je me suis dit, mais les trois derniers mots, c'est souvent les plus lourds. J'avais peur de cette lourdeur. Je vais juste les rebalancer au début. Et j'aurais même pas à me poser la question du titre. Et là, cette fin me donnait des titres auxquels j'aurais jamais espéré penser à ces titres-là. D'ailleurs, je viens des Beaux-Arts. J'adore la façon qu'ont les artistes visuels de créer des titres. Je trouve ça génial, les titres, les titres de peinture, les titres d'installation, je trouve ça génial. J'adore l'idée aussi d'untitled. Ce qui fait que mes poèmes qui n'avaient pas de titre devenaient de vrais untitled, et les autres, c'est un mot, deux mots, trois mots. Et où là, c'est comme si dans ces poèmes, ce dont je suis le plus fier, c'est la poétique du titre, quoi. Et donc, là, cette lourdeur, en la remettant en haut, c'était comme une poignée, elle tirait le poème, elle l'empêchait de totalement s'écraser au sol. Et je crois que ce qui m'a donné cette idée, c'est en lisant, un de mes poètes préférés, c'est John Ashbery, et Ben Lerner en fait la préface, et fait la préface d'un de ses livres qui sont ces recueils qu'il n'a jamais finis. Il y a eu une édition de « Après tous ses recueils, quand il est mort, de tout ce qu'il a jamais fini ». Il raconte une lecture d'Ashbery dans une université où il lit un poème que j'adore d'Ashbery d'un livre qui s'appelle « Three Poems ». Et il lit le deuxième poème, et c'est un poème en prose, et les dernières pages, ça explose, c'est sublime. Et Ashbery, avec ses feuilles, il tourne les pages, il se rend compte qu'il lui manque la dernière page du poème. Et il dit, bon, c'est pas très grave, de toute manière, vous avez vu où je voulais en venir. Et ça, j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire que pour finir un roman ou un poème, de toute manière, il y a un moment dans le poème ou dans la page que tu finisses un peu avant ou un peu après, tout le monde a vu ce que tu voulais dire. Et ça, ça m'a détendu. Je me suis dit, bon, tu peux couper un peu avant, c'est pas très grave.
Tu penses que c'est le cas, vraiment ? Qu'on sait vraiment... Parce que, justement, on vient... Il y a le mystère, enfin, là, dans tes poèmes, des fois on sait, mais des fois on sait pas. Des fois il y a du mystère, et peut-être que toi tu sais pas non plus. Est-ce que tu sais toujours où tu veux en venir ?
Tu sais pas précisément, tu sais pas dire avec des mots, mais tu... L'atmosphère, peut-être c'est une question d'atmosphère, l'atmosphère est la même, que tu finisses un peu avant ou pas, c'est juste que le film finit peut-être un peu trop tôt et t'aurais voulu qu'il dure un peu, quoi. Mais je pense que c'est pas si grave. En tout cas, dans Space, j'ai l'impression que, tu vois, il aurait pu avoir 10 anecdotes de plus sur le narrateur et Ben. Il aurait pu en avoir 3 de moins. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai fait mon choix. Bon.
T'as l'air très inquiet de toi-même. Tu trouves toujours des parades contre toi pour écrire.
Ouais, j'aime bien le mot parade, d'ailleurs. Quand j'étais au lycée, que je lisais les Illuminations, il y avait cette phrase de Rimbaud, j'ai seul la clé de cette parade sauvage. Mmh. Et le mot que je préférais, c'est bon, le mot clé et le mot parade. Oui, je crois que... C'est pour ça que je dis qu'il y a... Ma spontanéité, elle n'est pas dans le fait de... Bon, bah, c'est bon, je sais écrire, je vais me mettre à écrire. Il y a quelque chose de qui est avant tout et surtout négatif, quoi. C'est, je ne sais pas dire les choses. Tu vois, comme s'il y avait cette idée que... Bon, bah, quand on sait mal dire les choses, alors on va les écrire. Alors oui, du coup, je vais les écrire, mais ce n'est pas parce que je sais mal les dire que je sais bien les écrire. Je sais mal les dire et je sais mal les écrire. Mais il se trouve que lorsque je les écris, je les dis mal d'une manière différente que je les écris mal d'une façon différente que je les dis mal. Et ça, cette conversion, elle m'intéresse. Tu l'as dit mal, mais autrement. Et entre ces deux choses mal dites, c'est là qu'il y a une énergie qui, il me semble, qui circule, quoi. Mais oui, je suis d'abord inquiet dans l'écriture, quoi. C'est parce qu'il y a quelque chose que je ne vois pas, que je n'arrive pas à dire, que je n'arrive pas à écrire, que je me pose des questions pour essayer d'écrire ce que j'arrive pas à dire, essayer de dire ce que j'arrive pas à écrire, et que c'est une traduction entre le dire et l'écrire, quoi. Mais c'est parce que je n'y arrive pas que je le fais. Ouais. Sinon, si j'arrivais à résumer ces choses ou à me dire, je sais exactement ce que je veux dire, je verrais pas l'intérêt de les... Je l'écrirais pas, si. Ouais, je l'écrirais pas.
Est-ce que tu peux nous lire des extraits de Space? On n'a pas du tout suivi l'ordre de mes questions, mais c'est pas grave. On retournera à la vallée du test plus tard.
Et ben...
Il y a des cartes magiques comme marque-page.
Ouais. Bah, je vais peut-être lire d'abord ce passage, comme tu parlais d'inquiétude, sur une parade qu'essaie de trouver le narrateur à partir d'un livre qu'il lit. À la première page d'un roman américain, le narrateur, après s'être très brièvement présenté, se met à parler de l'océan. Il dit que lorsqu'il a des idées noires, il est même plus clair que ça, que quand il se sent un peu trop au bord d'appuyer sur la détente du pistolet qu'il presse contre sa tempe, blam, il file à la mer. Il écrit quelque chose comme « Pour moi, ça remplace le suicide ». Quelques lignes plus tard, toujours à la première page, le voici à la mer, il est sur la promenade, le long de la grève, il fixe l'horizon, les gens, les baigneurs. le narrateur, qui s'appelle Ishmael, a cette phrase en bas de la page. C'est même la dernière phrase de la page. Ishmael s'exclame « Regardez la foule de tous ceux qui ont envie de l'eau. Look at the crowds of water gazers there. » Bon, et quand je lis la traduction de la phrase, je ne peux pas m'empêcher de penser à la phrase d'avant. Ça remplace pour moi le suicide. L'eau remplace le suicide. Et malgré moi, j'entends dans cette dernière phrase avant de tourner la page « Regardez la foule de tous ceux qui ont envie de se suicider. » La foule de ceux qui ont foncé en direction de la mer pour éviter de commettre un truc irréparable et qui du coup mettent un maillot de bain et font de légers moulinets avec les bras devant l'immensité, les vagues, les profondeurs mystérieuses, l'abîme, et fixent ce vertige, nagent au bord de lui, avec juste la tête qui dépasse de la surface, pendant que d'autres ont construit des grèves, des promenades, des bateaux, tout un lot d'infrastructures et de moyens de transport pour ne pas être aspirés par cette masse super sombre qu'ils regardent. À quelques périodes de ma vie, j'ai moi-même eu très envie de partir à la mer, eu très envie de l'eau. Je crois qu'on peut dire que je fais partie de temps à autre de cette foule. Je voulais qu'il le sache, Ben, quand moi j'ai commencé à le savoir, ce que je ressentais. Nous parlions dans le noir, je lui disais « Regarde, il y a un grand lac à l'intérieur de moi. Et ce lac est très profond. C'est la Cornouaille. Je peux être aspiré à tout moment. Le lac a toujours été là, il sera toujours là. Et la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est comme font tous ces petits lieux de villégiature qui ont un plan d'eau à proximité. Voilà, il y a un gros plan d'eau à proximité de moi. » Et je passe une partie de mon temps à construire tout un lot d'infrastructures autour de lui, de petites maisons, des boutiques, quelques commerces et des activités typiques, kayak, pêche, plongée sous-marine, ramassage de perles, ricochet, feux d'artifice, pédalo, petit aérodrome, fête locale. Je mets aussi des maîtres nageurs un peu partout par sécurité, histoire que ce petit complexe aquatique, ce lac, devienne un site touristique attractif qui puisse me rapporter quelques avantages. Je me dis, autant l'exploiter, autant faire quelque chose avec tout ce vide, une espèce de station balnéaire 4 étoiles, parce qu'on ne peut pas faire disparaître le lac, la mer, l'océan. On ne peut qu'aménager comme on peut autour de cette matière. Je lui donne même des noms, je l'appelle le quartier du lac, le lac argenté, le lac vert. Tout dépend de comment je me sens. Mais Ben le savait quelque part, ce que je ressentais. Il me l'avait déjà dit un autre soir, je ne sais plus lequel. Peut-être même que cette histoire de lac est venue après, quand il m'avait dit « Mon garçon, toutes ces idées qui sont en toi depuis un certain temps, à un moment donné, il faudrait que tu commences à leur faire payer des loyers, payer pour les murs, pour la décoration, pour le chauffage et l'électricité. »
Wie geheimnisvoll, ich laufe, es regnet leicht. Ich beobachte den Weg und alles, was um mich ist. Bücher, Blumen, Bäume, alles zieht mich an. Ich habe keine Angst.
Et du coup, comment il est né ce roman Space ? Comment t'es passé des notes dans le journal au roman ? Comment t'es passé des poèmes au roman ? Sachant que c'est un roman qui est égrené de poèmes aussi.
Ouais.
Je crois que c'est des poèmes.
Mais il est né très tôt. C'est comme si dès que j'avais fini un livre, le prochain avait toujours été là, quoi. Il est né, de toute manière, d'une, d'un lien, d'une amitié, d'une relation avec un ami de lycée. Où je pense qu'il est né d'une personne réelle qui peut être à la fois cette question-là, ce qui nous ressemble, ce qui ne nous ressemble pas, qui à la fois j'avais la sensation qu'on était absolument la même personne, et à la fois qu'on était complètement différents, comme la pile et la face d'une pièce, sauf que c'est la même pièce, mais que c'était moi, et qu'en même temps c'était absolument pas moi, donc c'était absolument là où j'avais envie d'aller. Je crois qu'il est né de conversation avec cet ami que je ne voyais jamais parce qu'il vit toujours là, d'ailleurs en Angleterre, et où je savais très peu de choses sur lui, parce qu'on n'était pas dans le même pays, parce qu'on avait une relation très forte au lycée, mais ensuite on part dans les études et on finit par se voir juste l'été, et où j'ai commencé à vouloir raconter la somme des choses qu'on avait faites ensemble, et puis et je lui ai caché pendant tout un temps... mais je me le suis caché aussi à moi-même. Je crois qu'il y a une anecdote tout simple, c'est aussi la personne dont je recopiais toutes les phrases qu'il me disait ou qu'il m'écrivait. Où j'ai eu cette sensation très forte, très jeune, quand il m'écrivait, j'avais envie de noter ce qu'il disait. C'est la première personne dont j'ai noté ce qu'elle disait. Et ça, avant de comprendre qu'il y avait déjà là-dedans déjà, de comprendre que j'avais le droit de noter ces phrases-là et que le fait de les retranscrire était déjà une affaire de traduction. Il y avait déjà une conversion qui s'opérait là-dedans.
Et une conversation.
Ouais. Que ce qu'il me disait était là aussi parce que j'étais en face de lui. Avant de comprendre ça, il a fallu plusieurs années de journal, de comprendre quel était ce lien aussi, et d'une personne aussi qui, peut-être ou moi, comme j'étais assez inquiet du monde, une personne qui m'impressionnait par sa capacité à créer de l'extérieur, à aller vers l'extérieur, et dès que j'étais avec lui, j'avais la sensation de, tout simplement, que tout était possible, quoi. Et cette spontanéité peut-être me manquait, et dans la vie, et dans l'écriture. Donc c'est une personne un peu médium qui m'a aidé à être dans le monde, à y croire, je pense, et aussi dans mon écriture. Et puis c'est presque devenu un jeu au moment où il a compris que je voulais faire un livre. Et puis pendant longtemps, il y a eu juste eu l'idée d'un poème. Enfin, il y a eu l'idée d'un poème et d'un roman qui s'appellerait tous les deux Space, mais j'ai écrit le poème pendant des années. J'écrivais des petits distiques, les distiques qui sont dans le livre. Et à un moment, je pense qu'on peut toujours retracer les points d'origine. C'est un peu une rétroprojection, c'est peut-être un peu artificiel, mais je pense quand même on peut délimiter des endroits. J'y crois quand même qu'il y a du matériel à l'origine de ce qu'on fait, à l'origine de nos idées. J'avais été invité à donner un workshop au Master de création littéraire du Havre. Et c'était le premier workshop que je donnais, j'étais assez honoré... Je suis toujours pas très âgé, mais j'étais encore moins âgé, et donc la différence d'âge avec les étudiants et les étudiantes était fine. Et c'était principalement des gens qui allaient écrire des romans. Et moi, j'avais cette idée de Space depuis des années. Et je lis leurs projets, ils me présentent leurs projets, ils me lisent des pages, et je suis sorti de ça super jaloux. Mais jaloux en bien, hein, mais je me disais, mais ils sont trop forts, quoi. C'est trop fort. J'étais tellement impressionné, et je suis rentré à Bruxelles, et je me suis dit, bon, j'aurais dû faire un master de création littéraire, mais c'est trop tard, et maintenant je suis content de ne pas en avoir fait. Mais je me suis dit, bon, l'énergie que ce groupe m'a donnée, c'est... Il faut juste que j'y aille, il faut que je le fasse cette fois-ci, il faut être spontané. Ce que je te disais tout à l'heure, je pense qu'à ce moment-là, j'ai réussi à le trouver et j'avais 3 semaines devant moi où j'avais pas de travail, où j'avais pas grand monde à voir, où j'étais chez moi, tranquille. Et j'ai un peu banalisé ces journées et là, j'ai plus rien ouvert, j'ai plus ouvert mes journaux, J'ai écrit vraiment à l'aveugle, dans le noir, n'importe comment. Mais j'ai l'impression que ma technique pour écrire un roman, comme je me disais, je ne suis pas romancier, c'est je vais l'écrire n'importe comment. Et c'est-à-dire, j'ai commencé, et le lendemain, ça ne continuait pas. C'était, je faisais un nouveau document à partir de celui écrit la veille, et il s'augmentait par le milieu. J'ai jamais réussi à écrire un paragraphe à la suite d'un autre. Impossible. Ça s'ouvre en deux, quoi.
Accordéon.
Un accordéon, un éventail. Et d'ailleurs, quand j'ai retrouvé la première version de Space, la première journée où j'ai dû écrire, je ne sais pas, je crois, 13-14 pages, il y a la première phrase de Space et la dernière. Et ensuite, maintenant, ça en fait 250. C'est vraiment un truc, voilà, c'est par le milieu où... C'est un peu ce que j'explique dans Space, quoi. C'est comme si un roman, c'était une seule phrase et on va juste tirer de chaque côté, quoi. Donc le début et la fin sont exactement la même chose, sont collés. Ce qui revient au poème de la Vallée du Test, d'ailleurs, de cette espèce de théorie. Le début et la fin et le début. Et là, j'ai écrit 3 semaines, donc sans me relire. J'avais besoin d'arrêter de vérifier. Et au bout de 3 semaines, j'avais 150 pages. Et donc, j'étais forcé de constater que quelque chose s'était passé. Et j'étais très heureux. J'ai dit, putain, c'est la première fois que j'écris autant, sans me regarder. Et même si toutes mes phrases étaient trouées, toutes mes pages étaient trouées, il y avait des passages où, par exemple, je voulais décrire un trajet en voiture entre Ben et le narrateur. Je me sentais incapable de décrire ce qu'il se passait. Et au lieu de me bloquer, d'arrêter, ou alors de faire l'effort de décrire la scène, c'était écrit entre crochets « décrire trajet ». Puis je continuais. Et je mettais « décrire forêt »,« décrire mer », »,« décrire... Je me suis dit « on verra après, on verra après, on verra après, il faut juste que je crée de la matière. »
Et c'est étonnant parce que moi, je m'étais noté une question par rapport à Space, parce que t'as commencé par parler de Ben et de votre relation. Et je me suis demandé si Ben n'était pas presque un artifice littéraire, une façon de donner du lien, justement presque les coutures dont tu parlais. J'ai parfois l'impression que Ben devient une sorte de signe, quoi, que tu colles entre des différents paragraphes, des espaces.
Non, mais c'est juste ce que tu dis, c'est même un artifice, mais un feu d'artifice, quoi. Là, je me suis raccroché à lui, il m'a aidé à écrire. Aujourd'hui, pour écrire d'autres histoires, j'ai beaucoup moins besoin de lui. Il est toujours là, je pense qu'il sera un personnage secondaire ou tertiaire dans mon prochain roman. Il y a une mention de Ben dans la nouvelle The Dark, mais je m'autorise à raconter d'autres choses. Mais j'avais besoin de lui, j'avais besoin... C'est dingue, la seule chose que j'arrivais à raconter, c'est ce que j'avais vécu avec lui. Et même quand je dis « je », mais c'est aussi mon narrateur, parce que je me distingue de lui, et le Ben de Space, je le distingue aussi du Ben réel. Mais j'avais besoin que même ce que j'inventais comme matière dans le roman... ce soit toujours avec Ben. Tant qu'il était là, j'étais pas perdu dans le monde que je tentais de créer et de me repérer dans ce monde, quoi. Et donc, ça a été aussi... j'allais dire une béquille, mais c'est une belle béquille. Je pense même au mot béquille, parce qu'il y a un passage dans Space où le groupe de garçons est à Istanbul et passe la journée sur une île et... Et il regarde des chevaux malheureux et fatigués tirer des charrettes. Ils ont l'impression d'être retournés dans le passé. Et il y a un personnage qui s'appelle Éloi qui a des béquilles. Et j'aime bien, c'est un tout petit détail, c'est une phrase, mais il pointe les choses du monde avec sa béquille, il les regarde. Et c'était issu d'une image d'un vrai ami qui s'était cassé la cheville et qui m'avait... Je trouvais que ça correspondait à sa personnalité de s'être cassé la cheville à Istanbul. Et je le trouvais très beau, comme si sa béquille était devenue une extension de son index, mais un gigantesque index pour montrer le monde. Et donc, Ben, moi, je pense, a été aussi cette béquille-là, quoi, cette béquille de la fiction, quoi. Enfin, pour la fiction, quoi, pour y arriver, jusqu'à ce que je me rende compte que, bon, bah, c'est bon, la cheville était réparée.
Ben passait ses journées de repos à changer des pièces sur sa voiture. Il remplaçait d'anciennes par de nouvelles, et il disait que nous ne prenions jamais tout à fait la même voiture. À chaque fois, quelque chose avait été légèrement modifié. Il l'a restaurée depuis tellement d'années qu'il avait l'habitude de dire que j'aurais trouvé la clé de mes poèmes quand il aurait terminé de réparer sa voiture. La première fois que je suis monté dedans, ce n'était pas la même. La carrosserie était d'une couleur différente, les sièges aussi, il avait tout remplacé au fur et à mesure. Pourtant, c'était toujours sa voiture, et Ben avait dit qu'il était peut-être arrivé à l'essence d'une voiture, une pure voiture, un nom avec de l'essence à l'intérieur. Nous avions conclu que l'état naturel d'un poème, d'un livre, comme d'un bateau, d'une voiture, d'un avion, c'était de ne jamais être à l'arrêt.
Mais ouais, mais c'est normal en fait, l'état naturel du transport, ça peut jamais être à l'arrêt. Mais d'ailleurs, c'est ces moments-là qui sont les mieux, qui font vraiment voyage. C'est quand tu redémarres un système de transport qui a été à l'arrêt depuis 2 mois. Parce que là, faut tout vérifier.
Ouais.
Pre-flight checks, quoi. Tu vérifies tes pneus, tu vérifies les freins, tu vérifies le moteur, tu vérifies l'huile, tu vérifies que le moteur crée de l'électricité.
Ouais, avant de partir.
Après, tu lances le moteur, mais sans les bougies pour que tout tourne et tu vérifies que tout tourne bien. Tu refais d'autres checks. Tu nettoies l'intérieur.
Ouais, c'est ça.
Et puis après, tu remets les bougies. Vous, vous, vous. Et là, tu dis ça et on est parti, quoi.
Le week-end, il avait encore démonté les 4 roues de sa voiture pour vérifier je ne sais quoi au niveau de ses freins. Nous l'avions sorti du garage et surélevée à quelques dizaines de centimètres du sol. Elle semblait flotter dans l'allée, légère et silencieuse. Avec ses essieux nus et rouillés, elle me faisait penser à un petit vaisseau spatial de retour d'une époque ancienne. Je m'étais installé à la place de Ben dans la voiture sans roues. C'était comme à l'intérieur d'un minuscule avion. Les 2 portières étaient les ailes. Les instruments de bord avaient été simplifiés à 4 cadrans alignés. Je l'entendais frapper la carrosserie, donner des coups de clé un peu partout sous le châssis, et la voiture résonnait dans la voiture. Je suis resté comme ça, en lévitation, dans la voiture immobile. C'était la pointe de l'après-midi, la lumière descendait à travers le pare-brise. Le ciel s'était couvert derrière les maisons voisines. Je regardais Ben tourner en rond autour de la voiture comme une sorte de mage ou de mécanicien enchanteur avec son t-shirt sale. Il s'était mis à pleuvoir d'un seul coup, très fort, et quand la grêle avait commencé à tomber, Ben s'était à son tour réfugié dans la voiture. Les billes de glace recouvraient le sol comme une couche de nuages, un tapis de murs blanches, criblait le toit et le capot. Il avait allumé le contact et les phares éclairaient la pluie et la grêle. Des flaques d'eau s'étaient formées dans les trous de l'allée. Elles luisaient. Je nous imaginais planer très lentement et traverser de grandes rivières. L'air pénétrait par les fenêtres ouvertes. Je m'étais dit que ce devait être comme à l'intérieur de ces avions de guerre qu'il m'avait décrits. Il y avait une grosse concentration de mathématiciens et de statisticiens à Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale, comme à Bletchley Park, mais à New York, quoi. C'était un groupe de personnes que le Pentagone avait réunies, pensant que leur capacité cérébrale serait plus valable pour l'effort de guerre que juste leurs bras, tu vois. L'US Air Force se pointe et dit « Bon, voilà à quoi ressemblent nos avions en rentrant de l'Europe et du Japon, complètement criblés de balles. On voudrait bien foutre des matériaux pare-balles partout, mais après ils ne pourront plus décoller. Bref, on ne peut en mettre qu'une quantité limitée. » Alors un type observe les impacts de balles, il fait des tableaux statistiques, et il voit que les avions sont pleins de trous au niveau du cockpit et des réacteurs, et il refait des tableaux statistiques, c'est l'été. Le soleil se divise entre le fleuve Hudson, East River et Upper Bay, et il dit qu'il faut en foutre partout, à part sur le cockpit et les réacteurs, parce que tous les avions observés sont revenus criblés de balles. Mais bon, ils sont revenus.
Et Ben a eu l'air de relire aussi.
Ben est tellement intervenu que je suis venu chez lui en Angleterre pour lui parler du texte. Et le soir, quand il rentrait du travail, on se faisait des séquences lecture où je l'enregistrais en train de lire mon propre texte. Et il s'arrêtait dans le texte pour commenter les phrases. Mmh. Et ça, c'était un truc que je trouvais génial parce que il pouvait parler d'un moment que nous n'avions pas vécu ensemble, mais que Ben et le narrateur vivaient. Et il me disait par exemple, « Ah, c'est bien, on pourrait aller là ensuite. On pourrait aller regarder ici. » Et il y avait à nouveau une espèce d'équivalence parfaite entre ce que nous avions vécu et ce que nous n'avions pas vécu. C'était le même jeu.
Et tu penses pas que Ben est l'auteur de Space, le second auteur ? T'aurais pas pu signer avec les deux noms ?
Non. Non, vraiment pas, parce qu'il l'a pas écrit. Non, parce que c'est pas là-dedans que ça se situe. Et finalement, quand tu disais peut-être que Ben est un artifice, c'est-à-dire que à la fin, mon narrateur est quand même très seul, se rappelle de ses moments avec Ben. À la fin, c'est pas écrit à quatre mains. En tout cas, je sais, peut-être pour d'autres livres ça l'est, mais à la fin, il y a quand même une grande solitude et un grand vide du narrateur, et où j'étais tout seul avec cette chose-là que je lui ai aussi présentée au moment où lui, il en a lu plein de bribes, mais quand il a vu la forme finale, c'était aussi une autre transformation, c'était un autre objet, quoi. Il avait une espèce de mosaïque dans la tête, mais il ne voyait pas l'image. Et moi-même, je ne l'avais pas, et je me suis rendu compte à la fin que c'était aussi un portrait du narrateur, quoi, Ouais. Je croyais faire un livre sur Ben, je pense, au début. Et je pense juste qu'il m'a permis de faire un portrait d'une version, une version très inquiète de moi, qui m'a beaucoup ressemblé à un moment de ma vie, mais que j'avais besoin de lui pour pouvoir admettre cette grande inquiétude.